3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Les conséquences d'une drogue ou d'une médication que vous ne connaissez pas. Voici le thème qui touche l'émission d'aujourd'hui. Avec les deux longs-métrages dont je vais vous présenter, on va voir à quel point des fois, des drogues qui semblent faites pour vous aider ou vous amuser peuvent avoir des effets secondaires néfastes qui vont faire de vous soit un maniaque meurtrier ou encore vous donner des pouvoirs télékinésiques surprenants. C'est donc Blue Sunshine qui a été réalisé en 1978 et Scanners qui a été fait en 1977 qui sont les points centraux de notre thématique d'aujourd'hui. Finalement, on pourrait dire notre programme double. Donc, préparez vos prescriptions, sortez vos gants blancs parce que je vous promets un voyage dans la terreur comme vous n'en avez jamais connu.
Happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
You enjoy the movies, like to know what the stars do on and off the set. It's good to know what's new, then read all about it in the ABC Film Review. Collect those colored pin-ups of the guys and gals who send you Hollywood gossip, gets here right on cue. So read all about it in the ABC Film Review. The latest that they write about, collectors call and they sell about. So many things to find out about, it's over to you in Film Review. Read all about the big time, what the big time stars all do. Every month just buy that ABC Film Review. Every month just buy Film Review.
...1967. Doctors and scientists predicted it. Blue sunshine.
Did you ever hear the words blue sunshine back in school?
Jerry didn't do this!
Like this.
One man must solve the mystery. The victims. Wendy Fleming. Divorcee.
Wendy!
Blue Sunshine. John O'Malley. Lieutenant, Los Angeles Police Department. Blue Sunshine. Franny Scott.
I found.
Photographer.
Just in time.
Hey, wait a minute.
Blue Sunshine. Wayne Mulligan, campaign manager, Blue Sunshine. Dr. David Bloom.
Can't
Kelly.
Resident surgeon.
Give me a sponge! I said a long instrument!
1977. The nightmare has begun. Blue sunshine. Sunshine. It could happen to you.
Blue Sunshine, ou Le Rayon Bleu, est un drame policier qui a été distribué en salle par CinemaShare International le 12 mai 1978. Ce long métrage d'une durée de 94 minutes a coûté plus de 550 000 $ à produire. Malheureusement, il m'a été impossible de trouver le box-office de ce film en salle. Au niveau de la scénarisation-réalisation, eh bien, on retrouve le scénariste-réalisateur américain Jeff Lieberman, dont il s'agit ici du deuxième film, lui qui nous avait donné des films comme Squirm, Just Before Dawn ou Satan's Little Helper, ou qui avait écrit également le scénario des films The Never Ending Story 3 ou Squirm. Au niveau du poste de producteur, eh bien, c'est George Manas qui avait déjà occupé ce poste-là sur Squirm, mais qu'on a également connu sur une autre production très importante des années 70, He Knows You're Alone. Pour la distribution, on retrouve Zalman King, Deborah Winters, Mark Goddard, Robert Walden, Charles Seibert, Anne Cooper, Ray Young et Alice Gosley. Le film débute dans une petite cabine au fond des bois où se trouve une fête dans laquelle un homme va soudainement perdre la tête et assassiner trois jeunes femmes. Un des hommes présents à cette fête-là va essayer d'empêcher son ami de commettre les crimes et va le tuer accidentellement après que ce dernier ait été frappé par une voiture. Étant accusé des crimes, l'homme va devoir se sauver de la police et va chercher à prouver son innocence en entrant en contact avec un politicien qui cherche à devenir sénateur et qui semble lié à la vente d'une drogue qui s'appelait Blue Sunshine, qui aurait été remise à d'anciens étudiants de la fac de Stanford. 10 ans plus tard, les effets secondaires de cette drogue semblent non seulement faire en sorte que les personnes l'ayant prise sont atteintes de calvitie totale, mais sont également pris d'une folie meurtrière. Il s'agit du deuxième film ici du réalisateur Jeff Lieberman, lui qui nous avait donné le film Squirm en 1976. À l'origine, Lieberman avait écrit le film pour que l'histoire se passe à New York, mais il a dû changer l'emplacement pour se rendre à Los Angeles à cause de son budget très restreint. Le film ne sera tourné qu'en 5 semaines. Le budget du film était tellement restreint que même l'actrice Deborah Winters va elle-même utiliser ses propres vêtements pour la production. Jeff Goldblum avait été pressenti pour interpréter le personnage du docteur David Bloom, qui finalement va appartenir à l'acteur Robert Walden. Mais le réalisateur pensait que Goldblum et sa vedette principale, Zalman King, se ressemblaient trop. Alors, on a décidé de passer outre Jeff Goldblum, ce qui est peut-être une perte, même si Robert Walden était excellent dans cette production. Au niveau du générique d'introduction, le réalisateur va présenter une image de la pleine lune et ceci a été un geste très intentionnel de sa part parce qu'il voulait associer la lune avec la calvitie des personnages du film. Au niveau de la production, on a eu un seul problème, celui des enfants. Parce qu'à un certain moment donné, un des personnages qui gardait 2 enfants de bas âge devait soudainement perdre la raison et s'attaquer avec un couteau à ses 10 enfants. Le problème, c'est qu'on a filmé les séquences, mais lorsque les parents ont vu ce qui se passait, ils ont tout simplement pris leurs enfants, ils sont partis avec eux, disant qu'il n'était pas question que leurs enfants soient associés à ce genre de séquences. Tout ce qui était au niveau sonore était inutilisable et donc le réalisateur a dû utiliser sa propre fille de 3 ans pour pouvoir refaire la voix des enfants originaux utilisés dans la scène. Une des séquences mémorables de ce film, eh bien, c'est bien sûr la séquence qui se passe dans l'espèce de discothèque qui se situe dans un centre commercial. On a utilisé une espèce de bar country western à Los Angeles qu'on a converti en discothèque, question de sauver le plus possible d'argent, mais en même temps de garder la production à Los Angeles. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'au moment où on a tourné cette scène-là, la folie du disco n'avait pas encore touché la ville de Los Angeles. À l'origine, le film Blue Sunshine devait être financé par ABC. À ce moment-là, ce devait être ce qu'on appelle le « movie of the week ». Le problème, c'est qu'on voulait d'abord demander à ce que le film soit pour un âge familial, ce que ne voulait pas Lieberman. Et la deuxième chose, on parlait d'un film de moins de 74 minutes, alors que Lieberman, lui, désirait plus avoir une production qui tournait autour des 1h30. ABC va même demander avoir des changements au niveau du montage final, ce qui veut dire qu'à un certain moment donné, Lieberman, qui avait à ce moment-là le double du budget pour faire son film, soit 1 million $, eh bien, a tout simplement décidé de laisser tomber ça et de tout simplement tomber en indépendant et d'approcher la compagnie CinemaShares pour faire la production de son long-métrage qui, à ce moment-là, aura une sortie en salle. Malgré cela, Blue Sunshine va être présenté sur CBS très tard le soir durant les, au début des années 80. Et c'est ce qui va faire que le film va se ramasser des amateurs, soit un cult following qu'on appelle, parce que le film aujourd'hui est considéré comme un des films cultes des années 70. Ce qui est amusant également, c'est que lorsque le film est sorti en salle, le New York Post a écrit un article sur le film Blue Sunshine, mais on s'est trompé. Vu que le film est tourné et qu'à la fin, on met un texte qui laisse prédire que le film serait basé sur de véritables faits, eh bien, en réalité, ceci était bien arrangé avec le réalisateur, mais le New York Post ont écrit dans le journal que ce film était basé sur de vrais faits, ce qui n'était pas le cas. Lorsque je vous disais tantôt que Blue Sunshine était un film de culte, eh bien, on avait ouvert à Montréal un Blue Sunshine Psychotronic Film Center, qui était une espèce d'emplacement où est-ce qu'on présentait des films indépendants de jeunes artistes canadiens. Avant que cet emplacement-là ne soit fermé, Lieberman a quand même eu la chance de le visiter et de voir à quel point son œuvre avait influencé la création de ce centre. Lieberman n'a jamais assisté aux premières mondiales de Blue Sunshine dans les festivals, que ce soit à Londres ou en Allemagne, parce que malheureusement, il n'était même pas au courant que son film était diffusé dans ces 10 festivals. En 1988, Jeff Lieberman va créer un film qui s'intitule Remote Control, qui est un remake, mais non officiel, de son film Blue Sunshine. Mais au lieu d'avoir une drogue qui semble être la cause directe du fait que les gens deviennent des meurtriers en série, eh bien, la drogue était tout simplement remplacée par des cassettes vidéo dont le visionnement rendait les gens complètement fous. Au niveau des points forts et des points faibles, eh bien, Blue Sunshine, bien qu'il soit à l'origine un drame policier, mixe non seulement un peu de la science-fiction, mais surtout a un mélange d'horreur qui fait en sorte que le film est vraiment particulier. Loin d'être un film commercial, beaucoup plus un style indépendant, c'est un film qui peut, au début, déplaire à beaucoup de gens, mais d'un autre côté, si on le regarde pour ce qu'il est, c'est-à-dire une analyse de la société des années 70 et l'après Baby Boomers de la fin des années 60 et des conséquences de ces Baby Boomers-là, le film peut être extrêmement intéressant au niveau visuel. D'ailleurs, le concept original est vraiment sur la dégénérescence des idéologies des années 60 et la corruption du monde politique des années 70 liée directement au président Nixon. Il y a quelques images chocs et une ambiance très 70 qui rend ce film parfois déroutant, surtout au niveau de son atmosphère, mais pour un budget restreint comme il est, les effets spéciaux sont quand même bien réussis, malgré qu'ils sont loin d'être parfaits. L'autre avantage de Blue Sunshine, c'est le fait d'avoir un film qui peut tourner dans l'horreur, mais sans faire dégouler l'hémoglobine, ce qui veut dire que c'est accessible à n'importe quel auditoire, sans nécessairement avoir peur qu'à un moment donné, ça va virer dans le très sanglant. comme je disais tantôt, la conclusion du film qui se passe dans une discothèque située dans un centre commercial va devenir une des scènes cultes de ce film, malgré le fait que, pour moi, elle semble un petit peu trop expéditive. Le dernier point fort, je vous dirais, c'est la trame sonore du film qui est efficace, qui est excellente, mais ça, je vais vous en reparler dans quelques instants. Du côté des points faibles, bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a de points forts. Je vous dirais principalement, au niveau de la distribution, l'acteur principal, Zalman King, a de l'air totalement perdu. Il n'arrive pas à nous donner des émotions. Et je vous dirais que son interprétation est non seulement gauche et maladroite, mais parfois, il y a un overacting qui est complètement ridicule. Mais ça, ça peut peut-être être mis sur la faute du réalisateur qui semble peut-être avoir mal dirigé son acteur. L'aspect de folie qui est développé au niveau des personnages atteints des effets secondaires de la drogue Blue Sunshine aurait pu être mieux développé. Mais malheureusement, on se concentre vraiment juste sur les effets secondaires très tardifs, mais on ne voit pas l'évolution de la maladie ou de la déchéance du personnage, ce qui est un petit peu dommage parce que je pense qu'on a manqué quelque chose de vraiment bien à ce niveau-là. Ça aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus intéressant au film de Blue Sunshine, lui donner encore un aspect beaucoup plus unique que ce qu'il est présentement. La mise en scène également peut paraître par moments maladroite et mécanique, ce qui force même certains acteurs à mal jouer certaines scènes qui auraient vraiment pu être beaucoup plus dramatiques. On a juste à penser à cette séquence où je vous disais tout à l'heure, cette jeune femme qui poursuit des enfants avec un couteau, mais on voit que la jeune femme prend le temps de s'avancer des enfants parce que les enfants, eux autres, ils ont de l'air à s'amuser sur le plateau de tournage et n'ont pas d'avoir peur de la dame en question. Donc, ça enlève un petit peu de la crédibilité à la scène et c'est ça qui est dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qui a été fait. Il faut avouer aussi que le scénario est quelque peu inégal. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être mieux retravaillé et nous donner une histoire qui aurait été mieux montée. Tantôt, je vous parlais d'un côté positif qui était la trame sonore. Eh bien, la musique du film est interprétée par le compositeur Charles Gross qui nous avait donné Turner & Hooch, Air America et Punchline. Cette trame sonore est disponible dans les coffrets DVD et Blu-ray de Blue Sunshine. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver sur le marché, mais si vous achetez le coffret DVD, vous avez d'un côté le film et sur un autre disque, vous avez la trame sonore. Ça, c'était sur les coffrets qui étaient distribués respectivement par Synapse Film et Filmcentrics. Il y aura un vinyle, cependant, en 2014, qui va être distribué de façon très limitée, on parle de 1000 exemplaires, par les étiquettes Mondo. Thank you.
It's time to stretch and fetch. See what's cooking at our refreshment counter. You'll find your favorite foods and beverages, plus many new goodies to tempt your appetite and add to your evening's pleasure. Everything's the finest quality. So treat yourself now. How about a pizza? None better anywhere. Sizzling hamburgers grilled to your taste. Try a terrific hot barbecue sandwich. Crispy hot fresh French fries.
For the finest dairy produce of all kinds, farm fresh and full of fun to eat nourishment, you're sure to get the best for your family when you shop with us.
If there's a doubt, don't shoot it out. Call on the specialists. Get professional advice and the finest quality products from us.
From the day you married, you and your family have been working for life's little luxuries. Some you can only afford now and again.
Bermuda looks nice.
Diamond Bermuda.
Roger, will do.
But some luxuries you can afford every day of your life, like Imperial Leather Soap. Bring a little luxury to your family every day with Imperial Leather.
And now, on with the show.
Dix secondes. La douleur commence. Dans votre chair. Dans votre cerveau. 15 secondes. Vous étouffez. La douleur est intolérable. Car leur pouvoir est démoniaque. Ils contrôlent votre esprit. Ils manipulent votre corps. Ils prennent possession de vous jusqu'à complète destruction. 20 secondes, vous explosez. Vous allez vivre une expérience des plus insolites. Dès maintenant, vous ne serez plus en sécurité. Leurs pensées peuvent tuer.
Scanners, l'emprise monstrueuse de la parapsychologie. Scanners, une organisation à détruire, impitoyablement. Scanners, un film angoissant à voir absolument. Scanners, ils détiennent le plus terrifiant pouvoir pour vous détruire. Scanners. Scanners, bientôt sur cet écran.
Scanners, ce drame de science-fiction qui a été distribué en salle par la compagnie AFCO Embassy le 14 janvier 1981, est un film canadien d'une durée de 103 minutes qui a coûté plus de 3,5 millions de dollars à produire, mais a quand même ramassé un 14,2 millions de dollars au box-office. Au niveau de la réalisation et de la scénarisation, on y retrouve le réalisateur canadien David Cronenberg, qui nous avait donné Vidéodrome, The Fly et Rabid, et qui a également été responsable de films comme Shivers, Dead Ringers et The Dead Zone. Au niveau de la distribution, Stephen Lack, Jennifer O'Neill, Patrick McGoohan, Laurence Dane, Michael Ironside et Robert Silverman. L'histoire suit un vagabond doté de pouvoirs télépathiques particuliers qui est capturé par la société Concept pour laquelle travaille un scientifique qui lui demande son aide pour lutter contre un mégalomane du nom de Ravok qui semble posséder les mêmes pouvoirs que lui. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir l'existence des scanners, des gens qui semblent nés de femmes qui, pendant leur grossesse, ont pris un produit chimique particulier qui semble avoir eu des effets secondaires très néfastes au niveau des nouveau-nés, c'est-à-dire leur donner des pouvoirs télékinésiques extrêmement puissants qui fait en sorte que Ravok veut construire une armée de scanners et ainsi tout simplement exterminer la race humaine et faire en sorte que les scanners deviennent la nouvelle évolution de l'être humain sur la Terre. Après avoir complété la production de son film « The Brood », David Cronenberg va commencer à travailler sur Scanners, une idée qu'il avait en tête depuis les années 70. Un de ses premiers scénarios s'intitulait The Sensitive, puis par la suite, ce sera transformé par Telepathy 2000. Et c'est à ce moment-là qu'il va présenter son projet au producteur Roger Corman. Mais malheureusement, Cronenberg va réussir à aller chercher du financement du côté du Canada, notamment avec ce qu'on appelle la protection de la taxe, c'est-à-dire que toutes les taxes qu'il y avait sur la production étaient remboursées par le gouvernement canadien. Mais le problème, c'est que ce programme se termine à la fin des années 70 et donc Cronenberg n'a pas le choix. Il doit commencer à faire son film, sinon il va perdre ce qui va lui permettre de compléter son financement pour sa production. Et donc, il va commencer le tournage de sa production, mais sans même avoir un scénario terminé. Ce que ça voulait dire, c'est qu'à tous les matins, Cronenberg travaillait sur le scénario des scènes qu'il devait tourner pendant la journée même. Ce qui explique un petit peu pour laquelle le film Scanners a quelques problèmes de rythme et que la qualité des dialogues peut paraître quelque peu inégale. D'ailleurs, pour Cronenberg, il s'agit ici du film le plus difficile à tourner de sa carrière. Premièrement, justement, à cause du fait qu'il n'avait pas un scénario terminé, mais également toutes les problématiques de tournage, puisqu'il devait faire lui-même son découpage technique avant même que les séquences ne soient filmées. Donc, il devait toujours penser à la façon qu'il devait tourner ses scènes, mais comme il ne pouvait pas se préparer adéquatement parce qu'il écrivait le scénario le matin même, bien, à ce moment-là, il savait ce qu'il devait filmer, mais c'était la façon de le faire et ça mettait énormément de pression sur le jeune réalisateur canadien. De plus, il avait énormément de difficultés à s'entendre avec les acteurs Patrick McGowan et Jennifer O'Neill. Le tournage du film va se dérouler du 30 octobre 1979 jusqu'au 23 septembre 1979 et on aura plus de 9 mois de post-production et de reshoot pour essayer de compléter la production de Scanners qui semblait s'en aller à ce moment-là dans une véritable déroute. À l'origine, une des séquences les plus dramatiques du film, qui se situe à peu près à la 15e ou 20e minute du long-métrage, devait être diffusée au tout début du film. Le concepteur des effets spéciaux, Dick Smith, a donné une séquence tellement explosive que ça l'a terrorisé les gens lors du premier visionnement, à un point tel que l'auditoire avait de la difficulté par la suite à connecter avec le reste de l'histoire, puisqu'elle avait été complètement dégoûtée dès le début du film. C'est la raison pour laquelle on a pris cette séquence-là et qu'on l'a repoussée d'à peu près une vingtaine de minutes et qu'on a rajouté la séquence d'introduction avec Cameron, où à ce moment-là, ça permet de partir le film d'une façon plus relaxe avant d'arriver à cette scène choc. D'ailleurs, cette scène choc, on va l'avoir tournée 2 séquences. Pourquoi? Parce qu'il était impossible de passer cette séquence-là à la télévision. Et donc, lorsque le film devait être diffusé à la télévision, Cronenberg avait déjà tourné une seconde scène, une scène où Victor Del Grande, au lieu de connaître cette fin explosive, va tout simplement mourir d'une crise cardiaque durant la conférence. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous gardez les séquences qui suivent par la suite, si vous regardez la table, il n'y a aucune goutte de sang sur le comptoir. Et c'est parce qu'on n'a pas retourné une séquence avec le sang suite à la première mort du personnage de Victor Del Grande, mais on a tout simplement gardé les séquences qui avaient été tournées avec celles qui avaient été faites pour la télévision. Michael Ironside, on prétend qu'il n'aurait gagné que 5 300 $ pour sa prestation dans le film. À l'origine, il ne devait être que dans 2 scènes, mais l'acteur était tellement excellent que Cronenberg a décidé de le replacer à d'autres endroits. Pour Cronenberg, il s'agit ici du premier vrai film de science-fiction, malgré le fait qu'on a vu qu'il y avait des attraits à ce niveau-là, que ce soit avec Shivers, Rabbit ou The Brood, mais on voit qu'on a enlevé ici tout ce qu'on appelle l'aspect sexuel qui est très associé avec le début de carrière à Cronenberg. Ici, on se concentre plus sur un film d'action directe ou même jusqu'à un certain point, aujourd'hui, on pourrait l'associer à un film de super-héros, mais sans costume farfelu des années 70. D'ailleurs, ça va être son film qui va être le plus lucratif au niveau du box-office jusqu'à un autre film de science-fiction qu'il va réaliser 6 ans plus tard, soit le remake de The Fly. Malgré le fait qu'il est évident que Scanners ne remporterait pas de prix aux Oscars, c'est quand même un film qui a reçu quelques prix à droite et à gauche, notamment aux Academy of Science Fiction, Fantasy et Horror Films qui lui ont donné le Saturn Award en 1981 pour le meilleur film international, parce qu'il s'agissait ici d'un film canadien, et également qui a donné le prix des meilleurs effets spéciaux au concepteur d'effets spéciaux Dick Smith, prix qui avait été remis nez à nez avec le concepteur des effets spéciaux d'un autre film de science-fiction qui avait marqué les années 80, soit Altered States ou Au-delà du réel. Au niveau du festival Fantasporto en 1983, Scanners va gagner le meilleur film international de fantasy et sera également nominé pour 8 Genie Awards en 1982, mais n'en remportera malheureusement aucun. Scanners a tellement été populaire pour son époque qu'il a eu des suites et des spin-offs. Au niveau des suites, il y a eu Scanners 2 The New Order en 1991 et Scanners 3 The Takeover en 1992. Et au niveau des spin-offs, vous avez Scanner Cop en 1994, Scanners The Showdown, qui est également connu sous le titre de Scanner Cop 2 en 1995. Il est annoncé depuis 2007 qu'il y aura un remake du film Scanners, mais malheureusement, rien ne s'est produit à ce niveau-là. Au niveau des points forts, écoutez, c'est simple, Cronenberg n'avait pas beaucoup d'argent pour faire son film, mais il a su quand même nous donner un produit très intéressant pour le budget qu'il avait, donc surtout au niveau de deux séquences clés, soit la séquence qui est à peu près à 15 ou 20 minutes au début du film, ainsi que le conflit final entre les deux protagonistes, qui nous donne droit à des effets spéciaux vraiment extrêmement impressionnants. D'ailleurs, c'est vraiment la force de Scanners, les effets spéciaux de Dick Smith qui nous avait donné les effets spéciaux de The Exorcist et de Little Big Man. Donc, il vole la vedette. Et il avait même d'ailleurs travaillé avec un autre personnage qui était Gary Zellers sur justement le film Altered States, d'où la raison pour laquelle, tantôt je vous disais qu'au Saturn Award, il avait comme remporté le prix des meilleurs maquillages pour nez à nez avec une autre production qui était justement Altered States. Avec le temps, Scanners peut paraître avoir mal vieilli, mais à certains niveaux, il demeure intéressant. Une fois qu'on passe certains moments critiques de l'histoire qui sont, comme je disais tantôt, un petit peu incohérents, il y a des moments vraiment intéressants dans ce film-là. Et on ne le dira pas assez, mais Michael Ironside, au niveau de sa prestation, est probablement l'un des points forts de Scanners, principalement parce qu'il s'agit ici de la meilleure interprétation sur le grand écran de l'acteur canadien. Le film ne cherche pas à nous compliquer la vie au niveau d'une histoire complexe. On essaie de camoufler les moments faibles du scénario avec beaucoup d'action et ça permet au spectacle de bien se passer. D'ailleurs, c'est une façon de voir du côté de Scanners que c'est le X-Men des années 70. Mais malheureusement, ça amène des défauts et dans ces défauts-là, bien, c'est le scénario principalement. Ça nous donne donc un scénario qui est faible. Ça donne l'impression qu'on assiste à un film qui est superficiel. On aurait pu avoir quelque chose de mieux. Au niveau des acteurs, bien, on va s'entendre que l'acteur principal ici, puis c'est rare que ça arrive du côté de Cronenberg, mais Stephen Lack est vraiment pas à la hauteur de son personnage. Cependant, c'est quand même plaisant de voir Patrick McGowan revenir, mais McGowan, encore là, joue un rôle extrêmement statique, donc il en fait pas plus qu'il est supposé en faire. Mais du côté de Jennifer O'Neill, il y a quand même une bonne prestation de sa part et, comme je disais tantôt, Michael Ironside vole tout simplement la vedette par manque de compétition. L'autre chose aussi, bien, c'est difficile de s'attacher au personnage parce que, comme je dis, l'acteur principal n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux au niveau acting. Donc, les gens meurent devant l'écran, il y a un conflit entre le bien et le mal, mais on n'a pas vraiment d'intérêt, on n'a pas vraiment de on s'accroche pas vraiment à un personnage pour dire « Oh, je veux pas qu'il arrive de quoi ce personnage-là ou pas ». Ça nous laisse froid et ça, bien malheureusement, ça peut être dû justement non seulement au scénario qui est très faible et peut-être aussi à la mise en scène qui est un petit peu maladroite de Cronenberg. Il faut dire que Cronenberg en est qu'encore à ses débuts. C'est peut-être son quatrième long métrage en carrière. Mais également, ça nous enlève cette possibilité de rentrer dans le film, malgré le fait que si on le regarde tout simplement d'un spectacle du premier degré, on va être capable d'aller chercher le plaisir qu'on a besoin d'aller chercher pour s'amuser avec Scanners. Au niveau de la musique, eh bien, c'est le concepteur de musique Howard Shore qui nous avait donné, bien sûr, la trilogie des Lord of the Rings et The Hobbit, qui nous donne une petite trame sonore électronique vraiment bizarroïde qui met, je vous dirais, une petite personnalité unique à Scanners. Je vous mets ici donc un petit extrait. La trame sonore, vous pouvez la trouver sous l'étiquette Mondo sur le vinyle du film The Brood. Donc, vous avez les deux trames sonores ensemble, soit The Brood et Scanners. Mais il existe également un CD de la trame sonore qui a été produit juste uniquement pour le film Scanners. Du côté des cotes artistiques, que pour le film Blue Sunshine, Mediafilm cote le film 5. C'est la même cote que moi. Je trouve que c'est un film qui aurait pu être beaucoup mieux, mais justement, le fait que Lieberman, au niveau de sa mise en scène, est très instable et que son acteur principal n'est pas terrible, bien malheureusement, ça enlève un peu de plaisir au film, mais c'est quand même une production qui mérite d'être regardée. Du côté de Scanners, eh bien, c'est la même chose. C'est un 5 du côté de Mediafilm et c'est également un 5 de mon côté. Encore là, le scénario un petit peu instable de Cronenberg et l'interprétation moyenne de l'acteur principal font en sorte qu'on aurait pu assister à un meilleur spectacle. C'est quand même un petit film un peu amusant à regarder pour passer le temps au niveau de Scanners. Au niveau des âges et du contenu, du côté de Blue Sunshine, eh bien, la régie du cinéma donne une cote 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un 14 ans pour quelques séquences de violence. Au niveau de Scanners, même chose, 13 ans indicatif du côté de la régie du cinéma. Pour moi également, c'est un 14 ans ferme pour de la violence assez graphique parce qu'il est assez violent comme film. Pour la disponibilité des films en DVD et en Blu-ray, eh bien, du côté de Blue Sunshine, vous avez une édition spéciale DVD qui inclut deux disques. Donc, vous avez bien sûr le DVD du film et, comme je disais tout à l'heure, la trame sonore du film à l'intérieur de ce coffret-là. Et du côté du Blu-ray, il y a trois disques. Donc, vous avez un Blu-ray, un DVD et bien sûr, le CD de la trame sonore. Donc, pour les gens qui veulent avoir l'édition pleine, vous achetez l'édition Blu-ray. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'il y a de nouveaux documentaires sur l'édition Blu-ray, ce qu'il n'y a pas sur l'édition DVD. Du côté de Scanners, eh bien, vous avez bien sûr l'édition DVD qui est sortie par MGM, donc qui n'est pas très dispendieuse, une dizaine de dollars. Et cependant, vous avez Criterion qui a sorti un Blu-ray et un DVD. Donc, l'édition Criterion est quand même intéressante. Ils font toujours des beaux produits. Ils vous amènent une qualité d'image qui est beaucoup plus supérieure. Et habituellement, bien, vous avez quelques documentaires de plus. Mais dans les deux cas, ce n'est qu'un seul DVD ou un Blu-ray. Donc, c'est des choses qui sont présentement accessibles sur le marché. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.